Radio Vivant. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Bonjour Lucas.
Bonjour Guylaine.
Alors Lucas, c'est la question du temps qui est évoquée aujourd'hui.
Oui. D'ailleurs, la question du temps en philosophie n'a jamais été conclue ni résolue. Pour Platon, le temps est né avec le ciel. Le ciel, chez Platon, c'est l'idée primordiale immobile. L'idée voulant dire contenant de tous les termes et de toutes les définitions qui englobe toutes les possibilités pouvant se manifester dans le réel. Et ce réel, pour Platon, il est mobile, donc changeant. D'une manière générale, il y a là une recherche à définir l'essence du temps. Pour Aristote, on a plus affaire à une tentative de réduction logique où le temps est outil de mesure et de nombre. Les apports de la physique quantique, de la physique relative apportés par Albert Einstein, ne définissent pas son essence pour autant. Elle inverse juste un ordre de causalité. Ici, la matière et l'espace sont indissociables. Les mouvements des corps représentent la cause principale d'un changement sur l'environnement et la temporalité. Avant d'aller plus loin dans cet exposé, je tiens à dire que ce paramètre quantique et relatif sera également abordé dans le thème du rêve, où temps et espace, matière, évoluent différemment de notre perception de la réalité. Ces quelques pensées m'amènent à ce prochain point. Quelle est la place du temps en psychanalyse ?
Parlons-en, le temps en psychanalyse.
Eh bien, Guylaine, si l'on suit la pensée aristotélicienne, le psychanalyste prend une décision en accord avec son patient ou sa patiente de la durée et du nombre de séances. Il définit donc un temps de cure. Temps qui peut être défini comme sans terme immédiat également. C'est ce qui est le plus courant en thérapie. Cela rassure d'une part, car éclaire l'inconnu, qu'est le devenir. C'est un investissement dont on connaît le début, mais pas la fin. Le cadre temporel en psychanalyse semble donc être aristotélicien. Il est défini et rassurant. Cependant, lors de séances d'analyse, le temps semble plus proche de la vision platonicienne. Tout est changeant en forme et en mouvement, englobé dans un maelstrom de bonheur et de souffrance, éparpillé dans les limbes du temps. Ici, l'utilisation de termes définissant des pathologies doit comporter un recul de souplesse en vertu du réel et préférer une définition pour chaque instant, car le risque serait d'ancrer un réel mobile par un terme immobile. Dit de manière plus accessible, le temps est plus une caravane qu'une maison, c'est une roulotte qui déplace avec elle l'histoire, la mémoire, les joies et les peines.
Et puis je sais, Lucas, que vous vous intéressez à nos sujets sur les réseaux sociaux.
Alors effectivement, Guylaine, le temps sur les réseaux sociaux. Étonnamment, il s'agit de titres musicaux accompagnés souvent de clips démonstratifs. Le temps y est associé à des déceptions amoureuses, des regrets, des deuils. Parfois, à des injonctions de motivation, dans sa forme présente, ou des désirs et des rêves, dans sa forme future. Bien entendu, la notion de temps et d'argent est également de la partie. Non sans influence, une fois n'est pas coutume. Alors je terminerai par cette citation de François Pétrarque. « L'argent se gagne et se perd. » Le temps, lui, ne se regagne jamais.
Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire.
Avec Lucas Bielli, dans le cadre de Radio Divan sur FM+, nous évoquons la question du temps. Nous venons d'entendre Michel Fugain, « Je n'aurai pas le temps ». Et les paroles, je le rappelle, ont été écrites par Pierre Delanoë et chantées à partir de 1967 par ce chanteur leader du Big Bazar. Une belle époque, hein, Lucas. Vous aimez ces années-là ?
C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Même si je n'ai pas à moins de 20 ans, je ne la connais pas non plus.
J'aime beaucoup cette chanson, Je n'aurai pas le temps. Alors, merci pour votre exposé, Lucas. J'aimerais, moi, revenir sur cette question du temps en psychanalyse. Alors, en effet, dans notre pratique, on s'aperçoit très vite que c'est la première question qui est posée hein, en début de cure. Et si je commence une thérapie, une analyse, combien de temps cela va durer? Et la réponse pour nous est bien sûr extrêmement difficile à donner. Beaucoup de paramètres vont entrer en ligne de compte. Quelle est l'histoire de l'analysant? Combien de fois par semaine l'analysant accepte-t-il de venir voir son psychanalyste? Est-ce qu'il va continuer son travail analytique chez lui? Vous avez évoqué l'écriture tout à l'heure dans votre exposé qui vient compléter les séances. En effet, est-ce qu'il va écrire? Est-ce qu'il va rêver? Donc, non, vous ne l'avez pas évoqué, j'ai rêvé alors. Alors voilà, plein de questions auxquelles il est super difficile de répondre. Et puis aussi, c'est cette question de transfert, un sujet probablement que nous allons évoquer dans une de nos prochaines émissions. Cette histoire de relation entre l'analysant et l'analyste sera-t-elle de qualité et va-t-elle permettre de réduire ou d'augmenter le temps qui va se passer entre, dans ce travail analytique? Voilà, c'est vraiment une question très très difficile à répondre pour nous analystes vers nos analysants.
Oui, Guylaine, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout autant de questions qui se trouvent imbriquées autour du temps, autant de la cure, autant de l'analyse, font partie d'un même schéma. Pour commencer par le commencement, la première séance, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Alors si vous voulez, pour le dire plus grossièrement, c'est un peu comme faire un devis. Ensuite, il faut savoir que le travail ne s'arrête pas entre les séances. Il continue son chemin, les associations d'idées se font. Souvent à la manière d'un iceberg, sur l'exemple de l'écriture, certains peuvent écrire leurs rêves, par exemple.
Oui, c'est très précieux ce travail qui continue entre les séances. Et puis, alors, on a là parlé de la durée de l'analyse globalement, puis il y a aussi cette question de la durée d'une séance qui a beaucoup fait parler des analystes. On connaît Lacan et ses séances qui s'arrêtaient pile après un mot parce qu'il pensait que ça allait déclencher une réflexion chez son patient après. Et puis, il y a aussi, pour Jung, était lui partisan d'une durée moyenne d'une séance de 20 minutes. Globalement, on peut dire aujourd'hui qu'une séance dure entre 45 et 50 minutes.
Oui, c'est en général le temps qui se passe lors d'une séance. Alors, il y a également la durée des silences en analyse que j'aimerais soulever,
oui.
Alors, qui se montre parfois utile, mais s'il devient source de souffrance chez le patient et que le psychanalyste continue de l'imposer, car c'est une méthode parfois enseignée dans certaines écoles, je pense que quand il y a souffrance et que l'on s'entête à continuer dans ce schéma, c'est une erreur qui peut mettre en danger l'intégralité psychique du patient.
Et le silence fait partie du temps d'analyse. Même
oui.
Si on ne parle pas, le silence en fait intégralement partie. Pourtant.
Pourtant, tout à fait.
On se voit la semaine prochaine, Lucas, pour un autre sujet.
Oui, Guylaine, on se verra la semaine prochaine pour la question du rêve, qui sera le thème de la prochaine émission.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan. Une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.